Le rideau se releva. Bouffet reparut avec les deux actrices, à qui Matifat et Camuso jetèrent chacun une couronne. Coralie ramassa la sienne et la tendit à Lucien. Pour Lucien, ces 2 heures passées au théâtre furent comme un rêve. Les coulisses, malgré leurs horreurs, avaient commencé l'œuvre de cette fascination. Le poète, encore innocent, y avait respiré le vent du désordre et l'air de la volupté. Dans ces sales couloirs encombrés de machines et où fument des quinquets huileux, il règne comme une peste qui dévore l'âme. La vie n'y est plus ni sainte ni réelle. On y rit de toutes les choses sérieuses et les choses impossibles paraissent vraies. Ce fut comme un narcotique pour Lucien et Coralie acheva de le plonger dans une ivresse joyeuse. Le lustre s'éteignit. Il n'y avait plus alors dans la salle que les ouvreuses qui faisaient un singulier bruit en notant les petits bancs et fermant les loges. La rampe, soufflée comme une seule chandelle, répandit une odeur infecte. Le rideau se leva. Une lanterne descendit du cintre. Les pompiers commencèrent leur ronde avec les garçons de service. À la féerie de la scène, au spectacle des loges pleines de jolies femmes, aux étourdissantes lumières, à la splendide magie des décorations et des costumes neufs succédait le froid, l'horreur, l'obscurité, le vide. Ce fut hideux. « Eh bien, viens-tu, mon petit ?» dit Lousteau sur le théâtre. Lucien était dans une surprise indicible. « Saute de la loge ici !» lui cria le journaliste. D'un bond, Lucien se trouva sur la scène. À peine reconnut-il Florine et Coralie déshabillées, enveloppées dans leurs manteaux et leurs dédouillettes communes, la tête couverte de chapeaux à voile noire, semblable enfin à des papillons rentrés dans leurs larves. « Me ferez-vous l'honneur de me donner le bras ?» lui dit Coralie en tremblant. « Volontiers, » dit Lucien, qui sentit le cœur de l'actrice palpitant sur le sien, comme celui d'un oiseau quand il le prise. L'actrice, en se serrant contre le poète, eut la volupté d'une chatte qui se frotte à la jambe de son maître avec une moelleuse ardeur. « Nous allons donc souper ensemble, » lui dit-elle. Tous quatre sortirent et trouvèrent 2 fiacres à la porte des acteurs qui donnaient sur la rue des Fossés du Temple. Coralie fit monter Lucien dans sa voiture où étaient déjà Camuso et son beau-père, le bonhomme Cardo. Elle offrit la 4e place à Dubruel. Le directeur partit avec Florine, Matifat et Lousteau. « Ces fiacres sont infâmes, » dit Coralie. « Pourquoi n'avez-vous pas un équipage ?» répliqua Dubruel. « Pourquoi ? » s'écria-t-elle avec humeur. « Je ne veux pas le dire devant Monsieur Cardo, qui sans doute a formé son gendre. Croyez-vous que, petit et vieux comme il est, Monsieur Cardo ne donne que 300 francs par mois à Florentine, juste de quoi payer son loyer, sa pâtée et ses socs. Le vieux marquis de Rochegude qui a 600 000 livres de rente m'offre un coupé depuis 2 mois. Mais je suis une artiste et non une fille. Vous aurez une voiture après-demain, mademoiselle, dit gravement Camuso. Mais vous ne me l'aviez jamais demandé. Est-ce que ça se demande? Comment, quand on aime une femme, la laisse-t-on patauger dans la crotte et risquer de se casser les jambes en allant à pied? Il n'y a que ces chevaliers de l'aune pour aimer la boue au bas d'une robe. » En disant ces paroles avec une aigreur qui brisa le cœur de Camuso, Coralie trouvait la jambe de Lucien et la pressait entre les siennes. Elle lui prit la main et la lui serra. Elle se tut alors et parut concentrée dans une de ces jouissances infinies qui récompensent ces pauvres créatures de tout leur chagrin passé, de leur malheur, et qui développent dans leur âme une poésie inconnue aux autres femmes à qui ces violents contrastes manquent, heureusement. « Vous avez fini par jouer aussi bien que Mademoiselle Mars, » dit Dubruel à Coralie. « Oui, » dit Camuso, « Mademoiselle a eu quelque chose au commencement qui l'a chiffonné. Mais dès le milieu du second acte, elle a été délirante. Elle est pour la moitié dans votre succès. »« Et moi, pour la moitié dans le sien, » dit Dubruel. « Vous vous battez de la chape de l'évêque, » dit-elle d'une voix altérée. L'actrice profita d'un moment d'obscurité pour porter à ses lèvres la main de Lucien et la baisa en la mouillant de pleurs. Lucien fut alors ému jusque dans la moelle de ses os. L'humilité de la courtisane amoureuse comporte les magnificences morales qui en remontent aux anges. « Monsieur va faire l'article, » dit Dubruel en parlant à Lucien. « Il peut écrire un charmant paragraphe sur notre chère Coralie. »« Oh, rendez-nous ce petit service, » dit Camuso avec la voix d'un homme à genoux devant Lucien. « Vous trouverez en moi un serviteur bien disposé pour vous, en tout temps. »« Mais laissez-nous qu'à monsieur son indépendance, » cria l'actrice enragée. « Il écrira ce qu'il voudra. Achetez-moi des voitures et non pas des éloges. »« Vous les aurez à très bon marché, » répondit poliment Lucien. « Je n'ai jamais rien écrit dans les journaux. Je ne suis pas au fait de leur mœurs. Vous aurez la virginité de ma plume. »« Ce sera drôle, » dit Dubruel. « Nous voilà redemondis, » dit le petit père Cardo, que la sortie de Coralie avait atterré. « Si j'ai les prémices de ta plume, tu auras celle de mon cœur, » dit Coralie pendant le rapide instant où elle resta seule avec Lucien dans la voiture. Coralie alla rejoindre Florine dans sa chambre à coucher pour y prendre la toilette qu'elle y avait envoyée. Lucien ne connaissait pas le luxe que déploient chez les actrices ou chez leurs maîtresses les négociants enrichis qui veulent jouir de la vie. Quoique Matifa, qui n'avait pas une fortune aussi considérable que celle de son ami Camuso, eût fait les choses assez mesquinement, Lucien fut surpris en voyant une salle à manger artistiquement décorée, tapissée en drap vert garni de clous à tête dorée, éclairée par de belles lampes, meublée de jardinières pleines de fleurs, et un salon tendu de soie jaune relevé par des agréments bruns, où resplendissaient les meubles alors à la mode, un lustre de tomire, un tapis à dessins perses. La pendule, les candélabres, le feu, tout était de bon goût. Matifa avait laissé tout ordonner par Grindo, un jeune architecte qui lui bâtissait une maison et qui, sachant la destination de cet appartement, y mit un soin particulier. Aussi Matifa, toujours négociant, prenait-il des précautions pour toucher aux moindres choses. Il semblait avoir sans cesse devant lui le chiffre des mémoires et regardait ses magnificences comme des bijoux imprudemment sortis d'un écrin. Voilà pourtant ce que je serais forcé de faire pour Florentine, était une pensée qui se lisait dans les yeux du père Cardo. Lucien comprit soudain que l'état de la chambre où demeurait Lousteau n'inquiétait guère le journaliste aimé. Roi secret de ses fêtes, Étienne jouissait de toutes ces belles choses. Aussi se carrait-il en maître de maison devant la cheminée en causant avec le directeur qui félicitait du Bruel. « la copie !» cria Finot en entrant. « Rien dans la boîte du journal, les compositeurs tiennent-moi l'article et l'auront bientôt fini. »« Nous arrivons, » dit Étienne. « Nous trouverons une table et du feu dans le boudoir de Florine. » Si Monsieur Matifa veut nous procurer du papier et de l'encre, nous brocherons le journal pendant que Florine et Coralie s'habillent. » Cardo, Camuso et Matifa disparurent, empressés de chercher les plumes, les canifs et tout ce qu'il fallait aux deux écrivains. En ce moment, une des plus jolies lanceuses de ce temps, Tullia, se précipita dans le salon. « Mon cher enfant, dit-elle à Finot, on t'accorde tes 100 abonnements. Ils ne coûteront rien à la direction, ils sont déjà placés, apposés au chant, à l'orchestre et au corps de ballet. Ton journal est si spirituel que personne ne se plaindra. Tu auras tes loges. Enfin, voici le prix du premier trimestre, dit-elle en présentant deux billets de banque. Ainsi, ne m'échine pas. Je suis perdu, s'écria Finot. Je n'ai plus d'article de tête pour mon numéro, car il faut alors supprimer ma diatribe. Quel beau mouvement, ma divine Laïs, s'écria Blondet qui suivait la danseuse avec Nathan, Vernou et Claude Vignon amenés par lui. Tu resteras à souper avec nous, cher amour, ou je te fais écraser comme un papillon que tu es. En ta qualité de danseuse, tu n'exciteras aucune rivalité de talent. Quant à la beauté, vous avez toutes trop d'esprit pour être jalouse en public. Mon Dieu, mes amis, du Bruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi, cria Finot. J'ai besoin de 5 colonnes. J'en ferai 2 avec la pièce, dit Lucien. Mon sujet en donnera bien 2, dit Lousteau. Eh bien, Nathan, Vernou, du Bruel, faites-moi les plaisanteries de la fin. Ce brave Blondet pourra bien m'octroyer les 2 petites colonnes de la première page. Je cours à l'imprimerie. Heureusement, Tullia, tu es venue avec ta voiture. Oui, mais le duc y est avec un ministre allemand, dit-elle. Invitons le duc et le ministre, dit Nathan. Un allemand, ça voit bien, ça écoute. Nous le fusillerons à coups de hardiesse. Il en écrira à sa cour, s'écria Blondet. Qui est de nous tous le personnage assez sérieux pour descendre lui parler, dit Finot. « Allons, du Bruel, tu es un bureaucrate. Amène le duc de Rhétoré, le ministre, et donne le bras à Tullia. »« Mon Dieu, Tullia est-elle belle ce soir ?»« Nous allons être 13, » dit Matifa en pâlissant. « Non, 14, » s'écria Florentine en arrivant. « Je veux surveiller Maylord Cardo. »« D'ailleurs, » dit Lousteau, « Blondet est accompagné de Claude Vignon. »« Je l'ai mené boire, » répondit Blondet en prenant un encrier. « Ah ça, vous autres, ayez de l'esprit pour les 56 bouteilles de vin que nous boirons, » dit-il à Nathan et à Vernou. « Surtout, stimulez du Bruel, c'est un vaudevilliste. Il est capable de faire quelques méchantes pointes. Élevez-le jusqu'au bon mot. » Lucien, animé par le désir de faire ses preuves devant des personnages si remarquables, écrivit son premier article sur la table ronde du boudoir de Florine à la lueur des bougies roses allumées par Matifa.